France Musique.
You got it. Got the white. Got the white. Got the white.
Zeitmöglich. Zeitmöglich. Kommen nicht zu spät. Kommen nicht zu spät. Kommen nicht zu spät.
À pleine voix, bonjour et merci d'être avec nous à l'occasion des représentations de l'opéra de Richard Wagner, Tristan et Isolde, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris à partir du 12 mai et jusqu'au 24 mai. À pleine voix a eu la chance de rencontrer il y a quelques jours le chef d'orchestre Daniel Egatti, le directeur de l'Orchestre National de France, qui va conduire ces représentations du monument de l'art musical qu'est Tristan et Isolde à la tête de son orchestre et dans une mise en scène de Pierre Audi. C'est peu dire que Daniel Egatti est familier du répertoire wagnérien. Les grandes maisons d'opéra d'ailleurs s'arrachent, ce chef d'orchestre, qui pour Parsifal au Met, qui pour les maîtres chanteurs à Salzbourg. Et pourtant, Tristan et Isolde sera sa première fois dans la fosse. Daniel Egatti nous parle de son travail au piano avec les chanteurs, où prend racine selon lui une production d'opéra. Il nous raconte, Tristan et Isolde, cet opéra métaphysique sur l'amour, le désir désirant, le jour et la nuit. Comment chanter Wagner, c'est le thème d'À pleine voix cet après-midi.
Je suis très heureux de conduire pour la première fois Tristan ici avec l'Orchestre National de France. J'ai attendu beaucoup avant de prendre la décision de conduire Tristan, malgré je connais l'opéra depuis les années de mes études dans le conservatoire. J'ai cherché une occasion particulière pour le début. C'est là que je pensais que la meilleure chance pour moi était de faire avec l'Orchestre National de France au Théâtre des Champs-Élysées. C'est un théâtre pas très grand. J'ai demandé à Pierre Audi de partager ce projet. Et il arrive aussi à la fin d'une période de 8 ans que j'ai passé avec l'orchestre. Et mon opéra de telle importance, il va un peu, comment dire...
Un climax.
Oui, c'est un signe particulier que j'ai désiré aussi donner à moi-même et à notre collaboration. Certes, le prélude de la mort, soit avec la chanteuse ou soit sans, c'est une autre chose. L'opéra nous demande un effort particulier, c'est une émotion très profonde, c'est une histoire et une musique qui vraiment touche le corps le plus intime du compositeur et aussi, je pense, de le public et nous qui on est en moitié entre le chef d'œuvre et le public, on est dans une position particulière parce que parfois on est bouleversé dans des pages de musique comme ça, dans l'histoire, dans toute la profondeur qu'il y a à l'intérieur et parfois on doit aussi continuer à contrôler nous-mêmes pour être vraiment clair sur la représentation idéale de cette musique.
C'est beau ce que vous dites sur cette position du dedans-dehors, en quelque sorte, parce que vous êtes à la fois dans un rapport à l'incarnation, au personnage. Vous devez agencer cette relation entre les personnages, parce que vous êtes le chef d'orchestre. Mais à un moment donné, il faut aussi laisser les choses se produire sur la scène, parce que vous avez à agencer le rapport scène-fausse.
Oui, la position de le chef d'orchestre ou de les interprètes, c'est toujours une position pas facile. parce que bien sûr qu'on va nous plonger dans une 4 heures de musique comme la musique de Tristan. Parfois tu désires perdre le contrôle, non? Et le public a cette possibilité, a cette chance. C'est une chance que le chef d'orchestre ne peut jamais avoir, parce que c'est toujours dans une position de contrôle. Bien sûr, nous avons notre amour pour cette musique, mais parfois on doit nous détacher pour avoir le contrôle de cette situation.
À défaut de pouvoir écouter Daniele Gatti dans l'opéra Tristan et Isolde, pour cela il faut attendre les représentations du Théâtre des Champs-Élysées, c'est à partir de mardi, hein, le 12 mai, ou bien attendre sa diffusion sur France Musique, ce sera le 25 juin prochain. Et bien, je vous faisais écouter un extrait du prélude des Morts d'Isolde. Daniele Gatti, ici, conduit l'Orchestre National de France. C'était lors d'une tournée à Parme, au Théâtre Regio de Parme, le 30 octobre 2013. Nous avons donc rencontré, pour à pleine voix, le chef d'orchestre dans sa loge, avant une répétition de Tristan et Isolde, avec un plateau d'exception, hein, si l'on songe que Tristan sera incarné par le ténor allemand Thorsten Kerl et la soprano dramatique d'origine anglaise Rachel Nichols. Ajoutons Stephen Humes pour le roi Marc, Brett Polegato pour Curvenal ou encore Michele Bride pour Brangen. Voici donc Daniele Gatti qui nous parle du drame de Tristan et Isolde.
Deux personnages qui sont Tristan et Isolde, ils vivent dans un monde métaphysique, c'est leur monde. Et musicalement, je pense que l'écriture chromatique, langage chromatique, c'est le langage qui appartient à Tristan et Isolde, car il n'a jamais le sens de la fin. C'est toujours en devenir, c'est le mot allemand Sehnsucht. Le désir, le devenir. Le devenir jusqu'à, le désir jusqu'à. Dans le moment qu'on obtient, ça, c'est la mort. Le troisième art, c'est Tristan qui l'attend d'Isolde. Il reste en vie, malgré la blessure. Il reste en vie. Il chante pour 45 minutes. Jusqu'à le moment où le bateau il arrive. Quand il arrive, le bateau, il meurt. Mais pourquoi? Parce que le désir de souffrir jour après jour pour un idéal, c'est la force qui va donner lui la vie. Dans le moment qu'il a dans ses mains tout ça, c'est terminé. C'est le même exemple dans les grands duets d'amour de deuxième acte. Ils attendent ce moment. Et dans le moment qu'ils sont ensemble, il arrive le jour, c'est la mort de l'amour. Alors, dans le langage musical, ça c'est le chromatisme, parce que le chromatisme, il nous donne un idéal de jamais trouver une résolution harmonique. Les autres personnages, comme par exemple Curvenal ou Brangen, ils sont des personnages qui, au niveau musical, ils sont construits encore sur comment dire, un'opéra post-lohengrinienne, avec un langage musical plus diatonique, oui. Où la cadence musicale à la fin de la phrase, c'est...
Permet de résoudre, bien sûr, il
rassure le public. Moi aussi, quand j'écoute la musique, comment dire, tonale, on est rassuré parce qu'on arrive à comprendre qu'à la fin du rue, il y a une cadence. Et la cadence, il porte nous. Ou à gauche, ou à droite, ou tout droit. Parfois, avec les chromatismes, tu retournes. Parce que tu n'as pas une résolution tellement précise. Et alors, tu es circulé. C'est intéressant de comprendre le dynamisme du caractère musical dans une opéra qui passe pour être l'opéra chromatique par excellence, mais il est vraiment chromatique par excellence parce qu'il y a...
Donc sur deux personnages.
Sur le monde de Tristan et Isolde, mais sur les autres, il n'est pas chromatique. Mmh. Sur Courvenant, il y a un seul moment où Courvenant chante sur le chromatisme. Et très rarement Brangen, un peu Roi Marc. Qui est entre les deux mondes. Mais surtout Brangen et Courvenal, qui sont le miroir l'un de l'autre pour le personnage, parce que ce qui est Courvenal pour Tristan est Brangen pour Isolde.
Thank you.
Extrait du premier acte de Tristan et Isolde de Richard Wagner, dans cette scène où Isolde, princesse d'Irlande, promise au souverain de Cornouailles, le roi Marc, est déchirée entre son amour naissant et sa haine pour Tristan, qui autrefois tua son fiancé. Elle tend à celui qu'elle désire déjà, ce qu'elle croit être un filtre de mort, qu'elle boit elle aussi. Un couple mythique à la scène et au disque pour ce premier grand duo entre Tristan et Isolde, Birgit Nilsson et Wolfgang Windgassen dans cette production du Festival de Bayreuth, avec Karl Böhm à la direction, c'était en 1966. Le chef d'orchestre Daniele Gatti revient à présent sur un ouvrage qui ne parviendra jamais à épuiser les commentateurs.
Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, Tristan et Isolde, c'est l'histoire de la chevalerie. C'est une histoire qui commence, qui est déjà à la fin. Les personnages ils sont déjà morts quand l'opéra s'ouvre. Ils ne sont pas des vainqueurs. Alors tu rentres dans un idéal humain particulier et qui a rien à voir avec le message qu'il donne nous Parsifal, qui est sur la commisération, sur la compassion. Mais j'ai conduit aussi Maître Chanteur, qui c'est une opéra totalement différente. C'est, on peut dire parfois me rappelle un peu le Falstaff de Wagner. C'est le seul opéra de Wagner qui parle de personnages qui sont nous dans la vie réelle. C'est un opéra. Là, on est vraiment devant à l'actualité et à la temporalité. Et ce n'est pas un opéra métaphysique, c'est un opéra concret, c'est un opéra écrit en cadence.
Oui, alors qu'effectivement, dans Tristan, et on est sur d'autres couleurs de voix aussi.
Oui, mais n'oubliez pas qu'Isolde n'est pas Turandot. Hein. Ben, Isolde, c'est une jeune princesse. Et aussi Tristano, c'est pas Siegfried, c'est une Helden Tenor, mais c'est une jeune à la fin. Les deux, si tu as une reine qui chante avec des canonnades comme ça, pour moi c'est moins intéressant d'avoir un caractère comme ça plutôt qu'une Isolde beaucoup plus énigmatique. Quand tu as besoin de la voix, bien, mais quand tu as besoin de la transparence, de la douceur, de l'innocence, de la naïveté, de ce caractère, tu as besoin de ça.
Thank you. Nein,
Il fallait écouter un peu du grand acte de Tristan, ce troisième acte lors duquel le ténor héroïque est soumis à des exigences de puissance et d'endurance vocale absolument folle. Ici, magnifique voix de Wolfgang Wingassen dans la production donc de Karl Böhm en 66 avec le chœur et l'orchestre du festival de Bayreuth dans cette scène du désir dévorant.
Karine Le Bay, à pleine voix, France Musique.
Et donc à l'occasion de la très prochaine production de Tristan et Isolde au Théâtre des Champs-Élysées à partir de mardi 12 mai, nous avons rencontré donc le chef d'orchestre Daniel Egatti qui conduira donc cet opéra à la tête de l'Orchestre National de France. Daniel Egatti.
Marie-Nicole Lemieux dit que ce qu'elle aime chez vous, c'est justement le fait que tout votre corps parle quand vous dirigez. À pleine voix est une émission sur la vocalité, sur la voix. Je voulais vous demander, vous, avant cette présence du chef dans la fosse, parce que là, il vous décrit dans la fosse dirigeant, vous êtes quel chef avec les chanteurs? Quel rapport vous entretenez à la table avec les chanteurs?
C'est un rapport très, très important. Et on a devant d'êtres humains, avant tout, qui utilisent l'instrument le plus délicat qui est sur la terre, c'est la gorge, et c'est le physique. Vous ne pourrez pas peut-être comprendre, il suffit un minimum de changement de tension nerveuse pour contrôler pas plus la musculature de la gorge. Et parfois, quand sur la scène, il y a des moments de difficulté, le public, il pense que ça, c'est peut-être une question d'inhabilité de le chanteur. Parfois, c'est... Peut-être qu'il a, comment dire, bu un peu d'eau et il a créé un problème plutôt qu'un avantage. Peut-être qu'avant, pour un peu de poussière derrière la scène, quelqu'un y va tousser. Et après, on doit chanter un passage très difficile. C'est une profession vraiment maudite, on peut dire, dans cet côté. Et dans l'autre côté, peut-être une des plus belles professions du monde. La possibilité de communiquer avec le public l'état d'âme de caractère qu'il ne parle pas, mais il chante. Alors, on peut dire que la nature humaine s'est mise à nu parce que nous, on chante. C'est une profession très lourde. On pense que le chanteur, pour préparer un opéra, minimum, on doit être sur la place de la 3 à 4 semaines. Il y a plusieurs répétitions de régie. Il doit, bien sûr, maîtriser tout l'opéra par cœur, apprendre des mouvements différents. Et pensez-vous que peut-être dans la même saison, un chanteur, il chante la même opéra dans 2 ou 3 différentes productions. Il doit comprendre les différentes stratégies qui règlent la mise en scène et tout. Et en plus, ce que j'aime, c'est la possibilité de... entrer dans l'âme de le caractère.
Une autre voix bouleversante de Tristan et Isolde, ce long monologue du roi Marc à qui était promise Isolde et qui découvre la trahison de son fidèle chevalier Tristan. As-tu fait vraiment cela ? Tatest dus wirklicht, chante roi Marc. Ici, lors d'une représentation de Tristan au festival de Bayreuth en 66 sous la direction de Karl Böhm, quelle voix ici de basse profonde avec une palette expressive absolument subjugante. Mais revenons à la nouvelle production du Théâtre des Champs-Élysées, donc de ce Tristan et Isolde qui est mise en scène par Pierre Audi et qui sera donc dirigée par Daniele Gatti à la tête de son Orchestre National de France. On a pu rencontrer un autre musicien de la production, le baryton français Francis Dudiac. Il interprète ici un petit rôle dans cette production, aux côtés de Thorsten Kerl et de Tristan, donc, et de Rachel Nichols qui interprète le rôle d'Isolde. Et pourtant, Francis Dudiac nous parle extrêmement bien de ce qu'un rôle, même minime, eh bien, va venir apporter au mouvement d'un opéra et doit, en cela, être l'objet de tous les soins. Francis Dudiac.
Je suis ici pour faire le timonier, le Steuermann dans ce Tristan et Isolde. Pour ce personnage, ce genre de personnage là qu'on me demande de faire, c'est vrai qu'il y a une vocalité instantanée. C'est, vous arrivez, l'opéra dure depuis 3h15, 3h30, 15 minutes avant la fin, vous avez une phrase à faire, ils sont tous autour de vous, très chauds. Et vous, vous devez arriver et donner une facette de plus dans cet ouvrage et être prêt pour ça, quoi. Ça, c'est pas une espèce de zébulon qui arriverait sur scène, c'est un truc, je dois être dans une démarche aussi artistique avec le reste de la production. Et ça, c'est mon travail depuis quelques années sur mes rôles.
Comment se noue l'intrigue quand il arrive effectivement sur le plateau ?
Alors, quand il arrive sur le plateau, avec Pierre Audi, on en a parlé évidemment, comme arriver justement, pour ne pas arriver, c'est un personnage qui est toujours au fond du décor, qui doit chanter très fort, avec 80 musiciens en dessous, avec dans quelques mesures après Isolde, et puis le roi Marc, etc. Il va arriver, annoncer en fait que le roi Marc va arriver et va tuer tout le monde. Et c'est le premier qui arrive et qui tombe. Et Pierre m'a dit, tu peux pas arriver comme ça, tu arrives déjà blessé. Tu as déjà été meurtri par les soldats qui sont derrière, par les troupes qui viennent ensanglanter le plateau. Et tu commences cette démarche. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Est-ce que vous avez travaillé avec Daniele Gatti ou juste en répétition ?
Bien sûr, j'ai eu une répétition musicale, comme tous les autres chanteurs. On a vu la scène plusieurs fois. Il m'a demandé des choses. Moi, j'avais travaillé d'une certaine façon, assez dans une dynamique assez rythmique. Et puis, il m'a demandé à phraser beaucoup plus, avec des voyelles plus longues, je dirais plus belcantiste, peut-être. Et j'étais très impressionné qu'il mette autant d'attention justement à ce travail pour cette fois, ce que je dois interpréter là.
Thank you.
Un extrait de l'acte 3, lorsque le timonier Steuermann, dont nous parlait Francis Dudziak tout à l'heure, surgit brutalement avec son cortège d'annonces en prélude à l'hécatombe, celle de Curvenal, de Mello, d'Isolde. Enfin, on écoutera la mort d'Isolde tout à l'heure en fin d'émission. Ici, c'est un enregistrement d'anthologie que j'ai choisi, celui de Carlos Kleiber en 82 avec la Staatskapelle de Dresde. Écoutez un peu la distribution Wolfgang Emlich Steuermann. Ensuite, Tristan était René Collot, Isolde, Margaret Price, Marc Kurt Moll, Brangen Brigitte Fassbender et Curvenal était Dietrich Fischer-Dieskau. Oui, rien que ça. Dudziak évoquait tout à l'heure le travail au piano avec Daniel Ligeti sur la production de Tristan, dans une économie du théâtre lyrique toujours plus contraignante, avec parfois quelques grandes stars du lyrique qui ne prennent même plus la peine d'être là au début des répétitions, qui dépêchent des doublures et des boules juste quelques jours avant. On peut dire que c'est un acte politique.
Je pense que je suis un de les rares chefs qui encore adore faire des répétitions au piano avec les chanteurs. C'est une pratique qui a été abandonnée pendant les dernières années et je ne comprends pas pourquoi. Parce que l'opéra naît dans la salle au piano, pas sur la scène avec le metteur en scène. On doit commencer à comprendre une chose. Avec tout le respect, bien sûr, sur la mise en scène, sur l'idée de la régie et de tout ça, mais l'opéra est écrit par un compositeur et le chef d'orchestre, s'il a la fantaisie aussi de comprendre au niveau dramatique qu'est-ce qu'il passe, il peut regarder qu'il y a des partitions où le compositeur il a déjà prévu des choses, le caractère du personnage, dans l'orchestration, qu'est-ce qu'il désire. Bien sûr, on est devant une énigme si tu as seulement le texte devant toi. Tu as plusieurs possibilités d'interprétation. Avec la musique, tu as moins possibilités. Je peux dire pas seulement une, mais c'est beaucoup plus étroit, l'espace.
En fait, pourquoi, d'après vous, cette idée qu'il y a un resserrement, en tout cas du champ des possibles? Des sens possibles d'une œuvre, on peut en trouver plus dans le livret.
Mais bien sûr, parce
que la musique vient induire un cadre.
Eh bien oui, parce que déjà une texte mise en musique, il passe déjà dans la tête de quelqu'un qui prépare pour nous une idée dramatique. Surtout quand on fait des opéras de Wagner, de Verdi surtout, dans l'écriture musicale de la voix, on retrouve le caractère. Il a déjà lui. Trouver des solutions. Il a déjà, lui, réfléchi sur les textes et sur la dramaturgie. Et le passage qu'il écrit, il est exactement ce qu'il désire à ce moment dans l'expression intérieure de le caractère. Si on va changer ça, on va créer un clash.
Ce qui est fou dans ce que vous dites là, c'est que d'une certaine... C'est vrai. Et ce qui paraît incroyable, c'est que le metteur en scène, lui, fait un travail très construit avec son dramaturge. Il va creuser dans la partition. Il va avoir une idée des caractères.
Si, mais le problème, c'est que vraiment, aucun régisseur que j'ai vu vient jamais à écouter une répétition musicale. Ça, c'est une chose, bien sûr. Mais on doit aussi dire pourquoi. Pourquoi le théâtre, il pense avant tout d'engager toujours le metteur en scène avant le chef d'orchestre. Alors, c'est un problème de crise? Oui, c'est un problème de crise. Je suis né en Italie, le pays de l'opéra, et je me rappelle quand j'étais jeune dans le théâtre, les répétitions musicales étaient les choses entre les plus importantes. Après année, le théâtre te va présenter un plan de travail où les répétitions musicales ne sont pas prévues. Tu dois demander des répétitions musicales. Ils ne sont pas prévus. Il y a seulement 3-4 semaines à l'avantage de la mise en scène. Et tu dois demander, j'ai besoin un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Ça, c'est une chose vraiment pour moi...
C'est une inversion totale.
Si, malgré le fait que je suis totalement intéressé à des propositions nouvelles par le régisseur, mais on doit toujours travailler ensemble. Là, pour notre Tristan, je suis arrivé le 1er jour d'avril, on a travaillé ensemble, on a fait de répétitions piano, on a fait de répétitions en scène. Dans les répétitions en scène, j'ai fait mon observation, bien sûr, mais sur la scène, avec le régisseur, ensemble, on a un peu construit, comment dire, l'idée de l'opéra et surtout la réaction du caractère. Pour moi, c'est pas important si un chanteur vient dans la scène à gauche, à droite. Si, ok. C'est plus important qu'est-ce qu'il veut le développer de la question dramatique, le développe de la subjectivité de ça. Et alors, je suis très attaché à la partition d'orchestre. Et je regarde qu'est-ce que le compositeur a déjà préparé pour nous. Mon travail, qui je passe au metteur en scène, c'est de comprendre l'écriture de la partition et de trouver une traduction sur la scène. Travailler chanteur après chanteur pour parler de le personnage de caractère plutôt qu'avoir 2, 3, 4 chanteurs qui chantent. Si j'ai besoin de faire un duo, un trio, ok, mais à l'intérieur de duo et trio, il y a le développement de le caractère. Merci. Alors c'est mieux pour moi d'avoir le 11 chanteur, le pianiste, et parler avec lui de tout ce passage. Même dans les parties d'ensemble, bien sûr. On ne doit pas, comment dire, mélanger comme dans un orchestre. Les parties d'ensemble sont la, comment dire, la projection de plusieurs caractères, une après l'autre. Alors, si quelqu'un est vraiment confiant sur cette partie musicale, et qu'est-ce qu'il passe dans ces moments, après il peut chanter avec les autres, parce que le travail qu'on a fait singulièrement, c'est précis, c'est plus dans la profondeur. La fortune aussi, c'est de faire un début avec des chanteurs qui ont déjà chanté ça. Et alors, devient intéressant parce qu'on partage beaucoup de sensations et j'écoute beaucoup. Qu'est-ce qu'il arrive?
Ah
oui. Il est vraiment très important.
Donc c'est une bonne chose que ces chanteurs-là
absolument.
Ne soient pas comme vous au début Vierge. De l'aventure.
Non. Je suis très heureux parce que je dois dire aussi que je suis là aussi à, comment dire, à voler des choses qui sont très intéressantes. Il va à donner moi encore plus de richesse sur ça. Quand je prépare un opéra, je prépare une idée dramatique de l'opéra. Parfois, je commence et le chanteur, il peut dire, maestro, ça, c'est des tempi, ces tempi sont pour trop lents pour moi parce que je, ok, il arrivera. On doit regarder ensemble. Je pense à ces tempi parce que je désire ça. Mais on peut obtenir avec les répétitions qui vont à suivre exactement ce que je désire et je peux aider le chanteur dans le passage. Parfois, le chanteur, il comprend que, par exemple, il est, dans Tristan, je ne peux pas dire quand et je ne peux pas dire qui, mais quelqu'un a compris que la différence de tempi, de trois tempi, trois moments de tempi différents, il va donner à le caractère l'idée qu'il se plaque, il se va calmer. Et il donne, comment dire, une physionomie un peu plus articulée à le caractère. La personne en question n'a jamais chanté comme ça. Il a pris ça. Il a dit, c'est très intéressant. Parce que je comprends la mutation de caractère de mon personnage. Alors, c'est-à-dire que là, je réfléchis sur la table de ça. Et parfois, quelqu'un d'autre a réfléchi seulement sur l'idée des traditions. C'est pour ça que je dis, j'aime la tradition, mais je ne suis jamais la tradition. Je suis la partition. Et parfois, la tradition, elle est contre la partition. Alors, qu'est-ce qui a raison? La tradition ou la partition? Pour moi, c'est toujours la partition.
La tradition, elle vient apporter, comme vous dites, ce petit supplément.
La tradition, c'est la tradition. Mais la tradition, nous, on n'a pas besoin de reproduire la tradition. On a déjà des enregistrements, on fait des autres choses.
Le chanteur, est-ce qu'il peut pas être maman, tellement chargé de cette tradition et de fixer qu'il a du mal à aller là où vous avez envie de le mener? Comment vous faites dans ces cas-là?
On est tous ensemble. On est tous ensemble. On va à parler avec le chanteur, à dire, écoute, il est écrit comme ça et tu chantes de l'autre côté, différemment. Et n'est pas comme il est écrit. Si la tradition a toujours à faire ça, pourquoi le compositeur il a écrit comme ça? Et s'il a écrit comme ça, c'est pas seulement pour chanter précisément ce qui est imprimé, mais parce que le rythme que le compositeur a choisi, il est exactement là, comment dire, l'expression de l'âme. Quand tu chantes Verdi et tu ne chantes pas précisément ce qu'il a écrit, il arrive des autres choses. Si tu vas analyser bien l'écriture musicale, il a déjà la pulsation de l'âme. Et là, il devient tout plus facile.
Et ça conduit le geste vivant.
Alors, tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de prononcer plus clair un mot plutôt qu'un autre, tu n'as pas plus besoin de tu as seulement besoin d'être fidèle à ce que le compositeur a écrit. Parce que la différence entre un triolet et une autre figuration musicale, c'est fondamental pour donner à le caractère la juste expression. Si quelqu'un y chante en triolet, il donne un caractère. Si tu chantes pas un triolet, tu donnes un autre caractère. C'est ça. Alors, la mauvaise traduction, c'est seulement une interprétation comme ça.
Qui s'éloigne.
Ouais.
Freunde,
quelques mesures de la mort d'Isolde seulement, avec la voix sublime de Margaret Price, la Staatskapelle de Dresde et Carlos Kleiber qui referme cette à pleine voix sur le thème de chanter Wagner. Les franciliens auront peut-être un peu de chance pour prendre encore des places au Théâtre des Champs-Élysées du 12 au 24 mai prochain. Les représentations de Tristan avec l'Orchestre National sous la direction de Daniel Legati promettent le meilleur. Cette émission a été mixée par Pascal Bénard, réalisée par Christine Amado, avec la collaboration de Françoise Monteil et de Clémentine Pesson. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir de recevoir Sabine de Vielle avec Hélène Goljevitch qui l'accompagne encore très régulièrement dans des productions. Cette deuxième écoute en fait d'un professeur de chant qui continue à accompagner une grande chanteuse qui est Sabine de Vielle en exercice. Et donc samedi prochain dans En pleine voix.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.